Vous écoutez
RMC. C'est 18h-21h, Top of the Foot,
Jean-Louis Tour.
Il est 19h, c'est Top of the Foot, Captain Larquet est toujours là, Julien Cazard également, et nous accueillons notre super sub. Coach Courbis nous rejoint un peu plus tôt que prévu. Salut coach.
Salut les amis. Vous vous languissez, hein.
On reste dans le sud. Hein.
Salut capitaine,
pour Adil, on reste dans le sud. Un ancien défenseur aussi.
J'avais envie de revivre l'époque des Larquet Foot, où il y avait Captain Larquet, Coach Courbis. C'est une grande époque quand même.
Je pensais que tu allais dire quand on jouait l'un contre l'autre, parce que bon, il avait une meilleure équipe que moi. Hein. Ouh là là.
Ah oui, oui.
Vous êtes croisés pas longtemps.
J'avais l'impression qu'ils étaient 15.
Mais surtout, tu les voyais pas. Ils étaient en vert sur la pelouse verte.
C'était abominable.
Ah oui,
les fameux en vert sur la pelouse verte. En plus, ils étaient forts, ils étaient verts.
Bah oui. Bah, Captain, il était facile à voir, il était jamais au sol. C'était le seul toujours debout.
Moi, je me rappelle d'une saison où je suis à Sochaux, il gagne 19 matchs à domicile. 19 matchs sur 19.
Eh oui. C'est rare. C'est compliqué de jouer contre l'équipe de coach Courbis, Captain ?
Oui, c'était très, très compliqué parce qu'ils avaient une charnière centrale de très très haut niveau.
Oui. Et donc, tu n'allais pas t'y frotter, toi.
Ils étaient très bons, mais nous, on avait un avant-centre qui marqué. Doit être bon, marqué des buts.
Il est infernal. Donc là, il revient sur le débat de 18h.
Oui, non, mais j'ai retenu.
Sur Benzema. Il est infernal. Bon,
c'est vrai que c'est con d'avoir viré Giroud qui marquait pas un but pour remplacer par un mec. On se dit que c'est pas grave qu'il marque un but.
Tu vas pas t'y mettre, toi.
Non, mais
tu vas pas
t'y mettre tous les autres qui marquent autour. Si on se fait une. Non, Guivarch, c'est pas grave. Il marque pas de but parce qu'il est intéressant. Giroud, il marque pas de but. C'est pas grave. Benzema, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave de pas marquer de but.
Mais bon, j'ai assez les autres marques autour.
Surtout quand tu es neuf.
Ah non, mais moi, mettez-moi dans l'équipe parce que moi, dans l'équipe, je marque pas de but. Hein. Et les autres marqueront des buts à ma place.
Tu rendras pas les autres meilleurs.
Pardon ?
Non, mais.
Rien qu'à me regarder et me dire, oh putain, on a notre chance.
Bon, dans cette deuxième heure, à 19h30, ne ratez pas un entretien exceptionnel avec le fils de Sir Alex Ferguson, Jason Ferguson, qui sort un documentaire sur la vie de son père avec plein d'histoires passionnantes. Il sera avec nous dans la punchline tout à l'heure. À 19h30, il sera aussi question de Kylian Mbappé. Dans une longue interview, il affirme qu'un sportif se doit d'être engagé. Qu'en pensez-vous ? 32-16 pour débattre.
Engagé au Real Madrid, il voulait dire.
Non, engagé socialement, sur les sujets de société plutôt.
Florentino Pérez, il veut l'engager.
Oui, c'est ça. Et puis, dans Entre les lignes, à 19h45, la malédiction des pénaltys en bleu va-t-elle s'arrêter un jour ? Puisque donc Benzema a raté hier, on vous refera
C'est pas important de marquer des buts. Quand même, bon.
Allez, le banc de touche, on y va.
Il y en aura justement un des deux changements, c'est Ousmane Dembélé qui va faire son entrée.
Contrôle magnifique. De la poitrine, l'enchaînement, la frappe, le poteau, et Dembélé, et le but, et le but.
Je pense qu'on a la meilleure équipe du monde.
Et l'entrée de Kingsley Coman.
Oh, et le but de Kingsley Coman.
Et la qualité est liée, je veux pas, évidemment, j'ai un potentiel offensif qui est important.
La tête, le but d'Olivier.
Je ne vais pas pouvoir tous les faire jouer, mais je sais que j'ai des joueurs de haut niveau, habitués, décisifs.
Top of the Clash.
Alors, ça fait partie des éléments marquants de cette victoire face au Pays de Galles hier, 3-0. La qualité du banc de touche a de quoi faire peur aux adversaires de l'équipe de France. Hier, entrée en jeu donc de Coman, de Dembélé, de Ben Yedder pour parler des joueurs offensifs. Giroud est resté sur le banc. Il était même pas sur la feuille de match puisqu'il est rentré tard de la finale de la Ligue des Champions. Resté également Marcus Thuram dans les joueurs offensifs. Est-ce que c'est ce banc de touche qui fera la différence pendant l'Euro ? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Captain. Non, mais tu peux pas te marrer à chaque fois que je te pose une question.
Il y a Marcus Thuram déjà, il va faire la diff.
Je pense qu'effectivement, il y a un effectif pléthorique. Je pense que le banc de touche, ou plutôt que l'effectif dont dispose Didier Deschamps, est en qualité, en quantité, incontestablement le meilleur d'Europe. Reste maintenant à trouver les bonnes solutions. Reste maintenant à trouver les bons joueurs à leur poste. Hier, je pense qu'il y avait au départ, dans la tête de Didier Deschamps, 10 des 11 titulaires possibles. Je ne vois pas, et que le 11e s'appelle Kanté.
Ouais.
Donc, il y a là. Et puis, on l'a entendu au travers de la production, quand Coman rentre, quand Dembélé entre, ça ne peut pas affaiblir une équipe, ça peut donner des solutions autres à Didier Deschamps, quand le petit Koundé entre à une place qui n'est pas la sienne et qu'il est bon, je pense que ça peut aussi attiser la concurrence. Voilà, il me semble qu'il y a des joueurs de qualité à tous les postes, des doublures à tous les postes. Il ne faut pas non plus que ça se transforme en une concurrence malsaine, parce qu'il y a des joueurs, alors je ne pense pas à l'équipe de France, les règles sont bien établies, sur la durée ce serait peut-être un petit peu plus compliqué, sur un mois je ne pense pas que ça se produise, mais il y en a qui acceptent d'être sur le banc de touche, il y en a qui acceptent moins de l'être. Alors, je ne pense pas que ce soit un handicap. Mais il est certain que pour Didier Deschamps, il y a là un petit trésor qui va lui permettre parfois de sortir de situations compliquées. Et quand à l'heure de jeu ou à la 60e ou à la 70e minute, il fait entrer deux flèches comme Coman et Dembélé, je pense que les défenseurs adverses ont du souci à se faire.
Voilà. Coach, donc, oui, ça n'est pas fini, pardon.
Non, vas-y coach.
Mais, disons que moi aussi, je veux pas... Regardez un petit peu comment est posée la question. Je vais pas faire une leçon de français, j'en serais incapable, mais j'ai l'impression, et souvent, je dirais pas que ça me choque, mais ça me surprend qu'on mélange dans notre façon de voir les choses une équipe avec un effectif. Donc, quand par exemple, j'entends, on a la meilleure équipe du monde. Oui, à l'intérieur d'un effectif, évidemment qu'il y a eu une équipe. Mais moi, je pense que l'effectif...
Tu fais référence aux joueurs. Plusieurs ont dit ça. On a la meilleure équipe du monde.
Ouais. Oui, donc je pense qu'ils se trompent peut-être. Ils veulent dire on a le meilleur effectif du monde. Mais la meilleure équipe, ça voudrait dire aussi qu'on ne s'est pas aperçu. Sauf que maintenant, c'est parce qu'il est arrivé Benzema, on ne s'est pas aperçu que tous les joueurs que nous avions sans l'arrivée de Karim Benzema, ils étaient déjà.
Ils étaient déjà très forts, même sans Benzema.
Donc, la question, par exemple, que tu nous poses dans ce débat, est-ce que...
Quel point le banc de touche va faire la différence.
Mais au point que tout simplement, il faudrait qu'on arrive à réaliser, et tant pis, même si je suis pas très important, j'essaierai quand même de ma taille d'arriver à faire comprendre qu'on est dans une époque totalement différente que celle qu'on a pu connaître avec Jean-Michel. Nous on a connu même un football, il y avait pas de 12e homme. Tu avais un blessé, tu jouais à 10. Donc là maintenant, nous avons un football avec 5 changements. Et quand donc nous avons la possibilité d'avoir 5 changements de joueurs de champ, c'est 50% d'une équipe de football. Donc évidemment que ceux qui déjà ont les qualités pour pouvoir faire ces changements, et ça c'est les qualités d'un entraîneur ou d'un sélectionneur, de bien lire la première mi-temps pour justement intervenir en deuxième mi-temps au moment où il faut et pas à la 89e minute, bien évidemment. Mais c'est sûr que quand on voit l'effectif de notre équipe de France avec en plus maintenant l'arrivée de Karim Benzema, mais évidemment que c'est l'effectif le meilleur du monde. Si c'est pas l'effectif le meilleur du monde, eh ben à ce moment-là je me suis trompé. Il faut me dire où c'est qu'il est l'effectif le meilleur du monde chez nos adversaires.
Moi j'ai une question par rapport à ça. Tu dis que t'as le meilleur effectif, mais moi j'ai l'impression que le meilleur effectif c'est si avec ce système-là t'as tous les joueurs qu'il te faut, mais que si tu dois changer, t'as tous les joueurs qu'il te faut. Par exemple, moi, je sais pas si tu décides de jouer à 3 derrière, les latéraux, ben moi, je trouve que par exemple, on peut dire ce qu'on veut, Pavard, ben je le trouve pas transcendant en attaque. Pareil pour Koundé, il remet souvent la balle en retrait. Donc en fait, si tu veux jouer en 3-5-2, ben t'as pas le meilleur effectif du monde. Si tu veux jouer avec des ailiers, ben tu l'as peut-être, mais comme tu joues jamais avec et puis que Deschamps, ça le fait chier. Ben en fait, tu aperçois que t'as plein de mecs, mais t'as pas non plus un effectif avec des gens. Par exemple, t'as pas de Bruyne, t'as un seul Lemar. Donc moi je trouve que t'as beaucoup de mecs au même poste, t'as pas une grande variété. C'est très riche mais à des postes.
Ouais, mais après, c'est l'impression que ça me donne.
Je vois pas de variété.
Ça sera toujours passionnant parce que ce qui est passionnant c'est de discuter dans ce sacré football.
Moi j'ai
tout en étant en désaccord sans savoir qui a raison. Et ça c'est passionnant. Donc je peux te dire sans faire un gros effort avec mon cerveau que les prochains débats que nous aurons, ça sera les compositions d'équipe
équipes et les changements en cours de match. Là, on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir qui ça sera le titulaire entre Tolisso et Rabiot.
Oui.
Mais on ne pourrait pas réfléchir aussi en se disant tiens, et ni l'un ni l'autre. Ça,
mais alors, je suis d'accord.
Mais c'est Deschamps, l'entraîneur. Oui, mais moi, tu oublies tout le temps ce petit paramètre.
Mais c'est pas parce que Deschamps est entraîneur.
Il va prendre Deschamps comme consultant. Il aura les bonnes réponses.
Et qu'on va effectivement que Didier Deschamps a été champion du monde, mais on le sait, et finaliste de l'Euro, on le sait, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même donner notre avis. Et là, aujourd'hui, depuis l'arrivée de Benzema, on me parle d'un trio. Mais un quatuor, c'est interdit?
C'est vrai que, et c'est là-dessus que j'allais vous emmener, c'est ce qui est aussi frustrant avec d'avoir un banc de touche aussi fort, c'est de se dire que, on pourrait peut-être essayer d'incorporer un Coman, un Dembélé un peu plus tôt dans le match. Mais comme Deschamps nous a tellement mis dans la tête qu'on ne peut gagner une grande compète qu'avec trois éléments offensifs.
Mais moi qui suis emmerdant, je te dis, on l'a gagné à l'époque quand même. Tu vois, donc ça veut dire, la phrase, elle se termine par quand même. Et quand le capitaine, il nous parle des latéraux, ça m'intéresse beaucoup parce que les latéraux que nous avons, que ce soit Koundé, que ce soit Pavard, côté droit, que ce soit Hernandez, ce sont des arrières centraux qu'on a décalés comme des latéraux.
C'est-à-dire que ce sont des
garçons qui sont bons défensivement. Je ne vais pas quand même rappeler sur ces dernières années qui nous avions quand même au poste de latéral dans des organisations qui n'étaient pas à trois arrières centraux, qui étaient à quatre. Non, mais pourquoi je veux en arriver là? C'est pas pour parler d'Evra et de Sagna et de faire la différence sur le plan défensif avec ce que nous avons aujourd'hui. C'est qu'avec nos deux latéraux défensifs, est-ce qu'on peut pas se permettre pendant au moins 30 minutes ou 45 minutes, suivant comment ça peut se passer,
de
pouvoir avoir seulement deux milieux, quatre défenseurs dont des latéraux défensifs et un quatuor offensif qui pourrait être Coman ou Dembélé, Griezmann, Benzema et Mbappé. C'est interdit par quel règlement ça?
Alors coach, dans un passé antérieur et
comme tous les passés.
J'ai eu l'outrecuidance de proposer une attaque, mais lorsque Griezmann n'avait pas encore fait des éclats contre le pays de Galles, il a fait voilà. J'ai eu l'outrecuidance de dire qu'une attaque.
T'as voulu le mettre sur le banc, Griezmann. Voilà, c'est tout.
Attends. Mais la preuve, mais je ne renie rien. Je ne renie rien de ce que j'ai dit. J'ai eu l'extraordinaire faiblesse de présenter une attaque avec Coman et Dembélé sur les côtés et Mbappé et
Benzema.
Et Benzema à la pointe.
On gagne le 4 fois 100 mètres à l'euro, moi, ça c'est sûr.
On m'est tombé dessus, mon pauvre, comme s'il ne savait pas jouer au football, tu vois. On m'a dit, mais c'est pas possible, on ne gagnera pas de match, on marquera pas de but.
Ah bah oui, on a dit ça, on marquera pas de but. C'est extraordinaire.
Donc si tu veux, t'as pas le droit, avec certains, de jouer en attaque, c'est pas une bonne attaque. Coman et Dembélé sur les côtés et Benzema Mbappé dans l'axe. C'est pas bon.
Mais personne n'a dit
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que t'en penses, coach?
Mais non, réponds pas parce que là, il fait une caricature énorme. C'est juste qu'il a dit Griezmann, s'il n'est pas au niveau, il ira sur le banc. Et nous, on a essayé de lui dire qu'il a quand même un statut privilégié en équipe de France, que Deschamps lui donne et qu'il ne va pas aller sur le banc comme ça.
Mais capitaine, il a raison. Dans le sens que quand par exemple il y a eu une période très compliquée pour son intégration au Barça, à la limite il fallait vite que les matchs d'équipe de France arrivent pour qu'il retrouve
son niveau. Il finit mieux la saison avec le Barça, hier il est bon, il n'y a pas de raison de le mettre sur le banc quand même, aussi bon soit les remplaçants.
j'ai pas entendu capitaine en parler quand Griezmann était bon.
Si, c'était au moment de la liste de Benzema, le retour de Benzema. Si, c'est à ce moment-là, il était très bon Griezmann. Ah bah oui, je me rappelle pas mieux.
Donc je pensais avoir entendu que Griezmann peut aller sur le banc et qu'on aura quand même une bonne équipe s'il a une période un petit peu de méforme qui arrive à tout le monde.
Ah oui, d'accord.
Ça manque pas d'un joueur à profil meneur là, ton quatuor offensif, Jean-Michel. Des Jean-Michel Larquet, j'en vois pas beaucoup dans ton équipe là que tu nous as fait.
Non, comment si tu parce que
le profil
parce
meneur que tu, entre Mbappé, le meneur, entre Mbappé, Mbappé Benzema,
et Benzema, mais non, ça peut pas marcher.
Et puis meneur.
Et puis derrière,
Julien, Roland et Jean-Michel, Julien,
comme tu as la mémoire sélective, Julien.
Intérieur, moi.
Oui, une mémoire sélective. Tu sais que si tu mets Kanté derrière les deux là, derrière. C'est pas mauvais non plus, hein.
Non,
c'est
je te pas dis pas ça. Brain, j'ai l'impression
mais c'est
qu'il y a
pas mal non plus.
Tu nous as mis trois joueurs qui misaient beaucoup sur la vitesse, la percussion et le duel. Non.
Et alors,
ouais.
Et alors,
non, mais je sais pas. Mais j'ai. Mais moi. Attends, mais moi je
comment qui marque des buts et aussi, tu vois.
Oui.
Qui ça?
Coman.
Il joue beaucoup en percussion quand même, non? Même si c'est pas sur la vitesse qu'il joue, il joue quand même sur le cassage de rein quand même plus que sur la passe rapide, tu vois.
C'est quand même. Tu veux dire il manque un passeur?
Un joueur qui va sur une passe.
Pogba peut le faire. Pogba fait un bon match hier.
Oui, il peut. Mais il peut aussi disparaître, Pogba. C'est ça le problème.
Benzema peut faire une passe intelligente.
Mais oui, mais s'il est attaquant, Benzema, il va faire une passe à qui?
Il décroche.
Ah ben oui, mais oui, oui. Ah, c'est pas le standard.
S'il fait trop de passes,
c'est pas le standard. Il va décrocher. Il va pas décrocher tout le temps.
Mais
si Benzema fait trop de passes intéressantes, il va pas marquer. Tout le monde va lui tomber dessus. Jean-Michel Larquet le premier. Donc ne le laissez pas faire de passes intéressantes.
Un footballeur, il peut tout faire. Un Benzema, il fera tout, comme le faisait un Platini, comme le faisait un Zidane, comme le faisaient les grands joueurs. Ils sont capables de donner des passes décisives et de marquer des buts. Je pense que Platini, il a fait autant de passes décisives qu'il n'a marqué des buts.
Et
des buts, il en a marqué.
Il jouait 10 et il allait marquer des buts en tant que 10.
Et bien alors
ouais, il jouait souvent 9 avec le numéro 10 dans le dos.
Oui, mais il y avait toujours un point d'appui, un mec, un Rocheteau ou alors un Six ou un Stopira.
Ouais,
qui
était nettement supérieur à Mbappé. Allez,
un Daniel Bravo.
Arrêtez,
voilà. Sinon on rappelle Bernard Lacombe.
On va donner
la parole à Pierre.
Faut savoir, Jean-Michel, que moi je voulais pas dire tout ça, c'est qu'on me force à te chauffer pour t'énerver.
Ah non, pas du tout.
C'est toi, Jean-Louis, tu fais des clins d'œil depuis tout à l'heure.
Pas du tout, ça c'est mon rôle à moi. Toi, t'es là pour faire des blagues et moi pour chauffer Jean-Michel. Ça fait des années que ça dure. C'est trop facile.
Ah bon, ça fait des blagues.
Je croyais que c'était le contraire, moi. Bon, j'ai pas bien compris.
Ah, tu trouves que c'est moi qui fais l'humour. Allez, dans un instant, on continue le débat avec Pierre qui patiente au 32-16.
Est-ce qu'on va.
Pierre qui nous appelle du Puy-de-Dôme et pas de Bretagne. Va-t-on gagner l'euro grâce à notre bande touche 32-16, à tout de suite.
18h-21h, Top of the Foot,
Jean-Louis Tour.
19h17, c'est Top of the Foot avec coach Courbis, Captain Larquet et Julien Cazard. À 19h30, un sportif se doit-il d'être engagé? C'est ce qu'a affirmé Kylian Mbappé. Vous l'entendrez tout à l'heure, on en débattra. Et puis on sera aussi avec le fils de Sir Alex Ferguson qui a préparé un documentaire magnifique autour de son père, la légende de Manchester United. On n'oublie pas le tennis également, avant de repartir sur les bleus. Eric Salio est avec nous. Eric, c'est fini pour Mladenovic.
Oui, nouvelle perte, nouvelle défaite dans le clan français.
Le grand chelem est en marche.
Ah, on n'est pas loin du grand chelem, effectivement. On va à la double.
Attendez, ce soir.
Kiki Mladenovic, en plus Kiki elle a pris une roue 6-2, 6-0 contre l'Estonienne Anna Kontaveit, et on va se consoler avec les pépites étrangères, et il y en a un que je vous conseille, il s'appelle Carlos Alcaraz, espagnol, sorti des qualifs, 18 ans, qui est en train de détruire Nicolas Basilashvili, c'est celui qui avait remporté toi Dubaï il y a quelques temps. 6-4, 6-2 pour Carlos Alcaraz. Ouais, et puis dans maintenant.
Une heure et demie.
Voilà, une heure et demie. La dernière cartouche tricolore. Richard Gasquet.
Ouais, mais c'est maintenant.
Ah oui, on y croit.
Tu annonces combien de jeux pour Gasquet?
On y croit.
Moi j'ai dit 4-2-1.
Non, je pense qu'il y aura 7-5 au premier.
Oui, alors, oui. En tout cas, je pense qu'il va s'accrocher au premier. Il va gentiment lâcher après.
C'est très possible.
Merci Eric. Pierre est là au 32-16 pour revenir sur notre débat autour des Bleus et du banc de touche des Bleus. Salut Pierre.
Oui, bonsoir messieurs.
Alors qu'est-ce que tu as pensé du débat? Est-ce que selon toi ce banc peut nous faire gagner l'euro?
Déjà pour paraphraser un grand milieu de terrain de Saint-Etienne, je pense que dans un futur futuriste, il n'y aura plus de concert Roland-Garros à 23h.
Très bien.
Voilà, sinon, moi je suis... Alors, je savais pas que Jules Koundé, c'était la doublure de Pavard. J'ai appris ça hier soir. Je croyais que c'était Dubois. Moi, je croyais que Koundé, c'était un défenseur central. Bon, j'ai appris ça. Et après, je suis un petit peu inquiet sur les choix que Deschamps va avoir si le match se déroule mal pour contrarier une équipe adverse, en fait. Parce que Tolisso, c'est un bon joueur. Il revient juste de blessure. Est-ce que ça va tenir? Et Tolisso, il me fait peur, c'est qu'il peut péter un câble et prendre un rouge à tout moment. Donc sa force, c'est qu'il met de l'impact, mais sa faiblesse, c'est que mentalement, des fois, il vrille un peu. On l'a vu à Lyon, des fois, il a pété des câbles, il a pris des rouges qui sont venus de nulle part.
Bon, il était jeune, après, ça remonte un peu quand même.
Mais c'est un Stéphane qui parle, donc laisse-le tranquille. Il voit que Tolisso n'est pas fiable, c'est tout.
Et ensuite, j'ai un petit bémol sur Giroud, parce que Giroud, moi, j'ai jamais critiqué Giroud, je le trouve très bon, mais cette année, il a presque pas joué. Alors, c'est un très grand professionnel, tout ça, il va super bien se préparer, mais est-ce qu'il aura la condition, parce qu'il n'y a rien qui remplace les matchs, est-ce qu'il aura la condition pour rentrer dans un match et tout de suite mettre de l'intensité, être présent comme il sait le faire d'habitude, et peut-être arriver à faire une différence, parce que peut-être qu'un jour, bah, Mbappé, il sera pas trop en forme, et Deschamps, bon, j'ai un doute, hein, mais
je pense que si
et
on a
voilà, eu... j'ai des doutes un peu là-dessus, et derrière, est-ce qu'on a des aussi bons joueurs que Varane et Kimpembe pour les remplacer s'il se passe quelque chose, je sais pas. Et le gardien, Lloris, c'est le meilleur, Maignan, il n'a pas d'expérience au niveau international. Et Mandanda, il est un peu en fin de course, mais bon, on sait qu'un gardien, c'est particulier, vous le dites souvent, capitaine. Mais voilà, si on n'a pas Lloris dans le but, est-ce que aussi les défenseurs seront aussi sécurisés que quand c'est Lloris qui est dans le but, quoi.
Alors je précise juste un truc à Pierre. Tolisso, il a pris
très fort et...
Tolisso, il a pris deux rouges dans carrière. C'est pas non plus un grand habitué des cartons rouges.
Ah, juste celui dans le derby où il pète.
Eh ben, je t'avais dit, t'as une vision.
Ouais. Marqué,
t'as ouais, une vision de Stéphanois sur Tolisso. Je le sais, je l'ai vu.
Non, je suis pas Stéphanois du tout. Non,
ah bon?
Ah non, je suis du Puy-de-Dôme.
Ah pardon.
Je suis pas Stéphanois.
Rien à voir.
Excuse-moi, excusez-moi, monsieur Cazard.
Je vous en prie, je vous en prie.
C'est moi qui m'excuse. Dehors du périph, hein. Il n'y a pas que le Paris.
Alors, il paraît. Alors, et sauf que c'est nouveau pour moi, voilà. Donc laissez-moi le temps de le faire.
Faut sortir du 16e et des beaux quartiers.
Ah, du 16e, j'y vais pas, moi, tu rigoles, il y a trop de vieux. Non, je vais pour le 16e, moi, t'es fou.
Mais le Puy-de-Dôme, c'est si loin que ça de Saint-Étienne.
Déjà, le 16e, c'est limite la province parce que c'est au bord, déjà. Ça touche le périph. Donc, je n'y vais pas trop souvent.
Bon, très bien. Pierre, merci d'être venu au 32-16.
De rien, bonne fin de soirée.
À bientôt. Dans ce qu'il a dit, coach, je t'ai vu réagir.
Dire.
Sur les remplaçants.
Il est adorable. S'il nous passe en revue tous les joueurs en pensant à leur doublure, ce qui veut dire que dans le cas qu'ils seraient blessés, bah évidemment, si on a plein de blessés, on va avoir
le
niveau mieux, qui lui va baisser.
Oui. Les autres équipes, si elles ont 3 blessés, elles sont plus mal que nous, je pense. Parce que je me disais,
bien sûr.
C'est pour ça qu'on évidemment la Belgique, hein, je tiens à rappeler que je pense que c'est mort.
Bon, le banc de touche, notre banc de touche est meilleur quand même.
Oui.
Non, la Belgique.
Oui, mais c'est plus complet.
Pour ce qui est, si tu veux, de ce qui se passe pour Giroud depuis 3 mois, bah, je pense d'ailleurs que c'est une des raisons du retour de Karim Benzema. Donc le retour de Karim Benzema, pour moi, c'est quand Didier s'aperçoit que Giroud, ben, c'est plus tout à fait ça, que le remplaçant de Giroud, Martial, qui est adorable mais qui marque un but tous les 6 mois et qui est blessé, et que Mbappé l'utiliser ouais, au poste de numéro 9, Mbappé, c'est quand même l'utiliser à 50% de sa valeur. Donc c'est sûr que Didier, ça a dû le faire réfléchir. D'ailleurs, je pense que si l'Euro n'était pas, on peut parler avec des si, n'était pas reculé d'un an, il y a un an de ça, Benzema n'aurait pas été de retour.
Un grand sportif se doit-il d'être engagé? C'est ce que pense Kylian Mbappé. On en débat dans la punchline dans un instant. Et puis entretien à venir avec Jason Ferguson, le fils de Sir Alex Ferguson, à l'occasion de la sortie d'un documentaire Ferguson, le rêve impossible. On parlera de ce doc et des quelques histoires autour de son père. À tout de suite dans Top of the Foot. On est là jusqu'à 21h comme tous les soirs.
18h-21h, Top of the Foot,
Jean-Louis Tour.
Il est 18h28, c'est Top of the Foot, avec Captain Larquet, coach Courbis et Julien Cazard. À 19h45, comment régler ce problème sur les pénaltys? C'est quand même infernal, cette malédiction. Ce sera le débat entre les lignes, 32-16 pour participer. Attention, tout de suite, Mbappé, l'engagé.
Oula. RMC Top of the Foot,
la punchline.
Oui, et je vous rappelle juste avant de partir sur Mbappé qu'on sera avec le fils de Sir Alex Ferguson pour un entretien Top of the Foot dans un instant. Jason Ferguson, réalisateur d'un documentaire autour de la vie de son père, passionnant documentaire dans lequel témoignent Ryan Giggs, Eric Cantona notamment. On en parlera tout à l'heure. Mais donc Kylian Mbappé a donné une longue interview dans le Nouvel Obs, qui est donc paru aujourd'hui, et dedans il parle d'énormément de choses en dehors du foot, et notamment de son engagement. Il dit un grand sportif sportif se doit d'être engagé. Avant, beaucoup de gens me poussaient à m'engager, à dire ce que je pense sur les différents sujets, et je répondais que je n'étais pas prêt, que je devais digérer mon nouveau statut, ma nouvelle vie, ma nouvelle notoriété. C'était peut-être égoïste, dit-il. Je pense qu'un grand sportif se doit d'être engagé, et aujourd'hui, je suis prêt. Donc, il s'est positionné, notamment sur certaines affaires, en condamnant certaines violences inadmissibles, a-t-il déclaré. Et puis, il s'est également positionné autour de certains débats de société, en mettant en avant certains qui allaient au-delà du foot, en prenant l'exemple de Marcus Rashford notamment. Et puis, il a bien affirmé son attachement à la France en disant « Je suis né en France, j'ai grandi en France, la France m'a tout donné, j'essaie de lui rendre chaque fois que je joue pour l'équipe nationale. » Voilà. En plus, la France a fait des choses pour mes proches, pour ma famille, la France m'a beaucoup donné, donc il faut être fier de son pays. Et d'ailleurs, juste pour finir, il y a la question de l'identité également autour de lui, puisque donc il a un père camerounais et une mère algérienne, au niveau des origines, bien sûr.
Oui, parce qu'ils sont nés en France, hein.
Voilà.
Oui, mais ça compte.
Mais il dit, je peux comprendre qu'on me pose la question sur l'identité, mais pour moi, ça a toujours été clair. Je suis né en France, mes parents sont français, j'ai grandi en France, je suis français à 100%, je suis extrêmement fier de mes origines, parce que ça fait partie de mon histoire, ce sont mes racines, mais mon pays, c'est la France. Alors, sur l'engagement des sportifs, c'est un débat qui revient beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'un sportif doit être engagé? Et quand vous entendez Mbappé parler comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Captain?
Écoute, oui, c'est bien formaté, son discours. Hein, si c'était, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, mais là, le pauvre, quoi qu'il dise, de toute façon, il se prend un coup de rap.
C'est bien formaté sur le fait qu'il dise qu'il est français, mais je pense que personne n'a contesté le fait qu'il soit français, d'un papa qui est d'origine camerounaise, comme moi, je suis d'origine béarnaise. Enfin, c'est. Voilà, et son papa est né en France aussi, le papa de
mm-hmm, Kylian. Oui, bien sûr.
Donc il est français, et sa maman, elle est née en France, donc elle est française. Il y a zéro problème de ce côté-là, mais vraiment aucun problème. Mais quand tu me parles de Rashford ou d'homme ou de personnalité autre que sportive, il y a ceux qui parlent, ceux qui prennent position, et puis il y a ceux qui agissent. Moi, je suis toujours en admiration, par exemple. Sur ce qu'a pu faire un garçon comme Coluche. Aujourd'hui, malheureusement, son initiative perdure. Et malheureusement, elle continue à être de plus en plus utile parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de manger à leur faim et qui ne le font pas. Mais entre se positionner et être dans l'action, honnêtement, je préfère des gens qui ne parlent pas trop mais qui agissent. Et je pense que toute personne, sportif, homme politique, homme de spectacle, est beaucoup plus utile dans l'action.
Après, pardon, Captain, mais quand même, ne faisons pas ces reproches à Mbappé qui fait des choses aussi, quand même. Tout n'est pas médiatisé, mais il est présent dans plusieurs associations.
Jean-Louis, excuse-moi, mais
là, on parle d'une interview où il explique tout ça. Donc forcément, on est sur les paroles, pas sur les actes. Mais il y en a quand même des actes.
Et bien, tant mieux pour lui, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'actes.
D'accord, c'était pour dissiper tout malentendu. Il n'y a pas de souci.
Non, je dis simplement qu'à la limite, il dit, moi, dans la plus grande discrétion, je fais ce que je pense être utile à faire. Voilà. Et peut-être qu'il prendra la tête qu'un jour, je me rappelle plus qui est-ce qui était sur la mucoviscidose. Je crois que c'était Zidane, non, qui était,
oui,
sur la mucoviscidose.
Mais je crois. C'est pas la mucodystrophie? Non, c'est mucoviscidose de Zidane.
Mucoviscidose.
Ah, pardon.
Mais je me demande si Julien n'a pas raison, mais bon.
Je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas Doctolib non plus. Hein.
Ouais,
j'ai tenté un truc, là, je me suis lancé un peu à pied joint.
Mais
je crois que Julien a raison, effectivement.
Et oui, non, mais ça, c'est la team Rodez. Avec Zidane, on est.
Que Kylian Mbappé prenne la tête d'une croisade pour que les gens malheureux, ou les gens malades, ou les gens handicapés aient une vie plus agréable. Personne ne... C'est très bien. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Je pense que c'est ton fort intérieur qui te guide et qui te le...
Est-ce que ne pas le faire, c'est être égoïste? Parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il sous-entend dans l'interview. Il dit, quand on est sportif de haut niveau, qu'il y a autant de gens qui nous écoutent, etc., si on peut faire des choses en plus, il faut le faire. Sinon, c'est ne penser qu'à soi.
Mais Jean-Louis, tu ne changeras pas la nature profonde des gens. Il y a des gens qui sont très riches et qui n'ont jamais donné un centime à qui que ce soit. Jamais. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus pauvres, qui sont même parfois à la limite et qui sont généreux.
Merci, générosité... merci de parler de nous aussi, Jean-Michel. C'est important. Parce
la générosité.
Oui, merci.
La générosité, elle ne se mesure pas au chèque que tu fais à une association contre le cancer ou pour des enfants malades. Elle se mesure à ce que tu as et ce que tu donnes par rapport à ce que tu as.
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà.
Donc, moi, je pense que c'est bien qu'un homme public prenne et fasse. Je préfère qu'il fasse plutôt que qu'il dise. Voilà, mais je suis sûr que Kylian Mbappé, il l'a fait. Je citerai pas, mais ça me revient à l'esprit. Il a été généreux. Il a été généreux comme aucun employé aucun fonctionnaire ne peut l'être. Mais bon, tout est relatif dans la vie.
Alors,
tout est relatif.
Julien, alors, et après on aura quelqu'un de riche et généreux
il
avec
engage, Roland?
Riche et généreux, coach Courbis.
Ah, j'ai pas entendu généreux. Et donc.
Non, mais il donnait 50 euros pour aller chercher les bottes de nuggets à la grande époque. Attends, et regardez la monnaie.
Il donne beaucoup contre la maltraitance des animaux. Enfin, tout ce que tu donnes aux chevaux, j'espère que ça leur revient quand même. Quand tu paries. Par rapport à Mbappé, il dit oui, il s'est engagé contre la violence, tout ça. Alors, j'adore, c'est quoi la violence? C'est quoi contre la violence? Non, parce que moi, les mecs qui sont contre la violence faite aux chevilles de Neymar, c'est faite à qui? Parce que violence, ça veut tenir rien.
Notamment
dire.
Sur l'affaire Michel Zecler, le producteur de musique qui a été passé à tabac par la police. Donc, contre les violences policières.
Voilà, les violences policières, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce genre de là où je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est que tu t'engages, mais il y a un mec qui va t'expliquer. Alors, oui, Kylian, qu'est-ce que tu penses des morts sur les chantiers au Qatar?
Oui, bon, là,
ah, non, mais voilà, là, tout d'un coup, c'est ça que je veux te dire, c'est que faut faire attention.
C'est un engagement à géométrie variable.
Mais c'est un engagement. Il va s'engager sur ce mec-là. Bon, ok, très bien, il a raison. Mais en même temps, il dit oui, mais il y a 6000 mecs qui sont morts sur un chantier au Qatar.
Tu dis parce que ça lui coûte rien, quoi.
C'est pas ça, je sais que c'est... Non, mais évidemment que c'est sincère, mais je veux te dire, c'est que quand tu commences à...
D'ailleurs, il dit
que
ça vient toujours de moi, cet engagement.
Quand tu commences à faire le porte-drapeau, faut faire attention à pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu défends...
Mais dans ce cas, tu fais rien.
Ah, c'est pas ça que je dis. C'est que tu peux faire des choses, mais c'est toujours un peu délicat. Quand tu vas dire « je suis contre la violence », tu vas aller expliquer, que tu es choqué par des choses...
quand même, hein.
Eh oui, alors
ça pourrait faire un bon débat.
Détrompe-toi. Moi, je connais des gens qui sont pour la violence. C'est des très bons amis. Et je les embrasse. Non, mais...
Ah non.
Mais ça, c'est une autre forme de violence.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est toujours un peu délicat. Mais même si je sais qu'il est sincère et je suis d'accord avec lui, c'est quand tu dis « je suis choqué par des violences » et que toi, tu travailles pour un employeur qui te paye grassement et qui, lui, est plutôt sous les feux de l'actualité par rapport à ça.
Oui, mais dans ce cas, si tu veux être cohérent avec ce que tu dis, tu ne t'engages pas.
Sur ce terrain-là, c'est tendu.
Bon, coach.
Mais il fait ce qu'il veut, encore une fois. Et marque des buts, frère. Et reste à Paris, c'est quoi? C'est quoi, franchement? C'est tout ce que j'ai à dire.
Coach.
Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, ça reste quand même un sportif et donc un joueur de foot où on a quand même eu, depuis pas mal d'années, une réputation, nous, les joueurs de foot, pas d'être des gens très, très futés. Je l'ai vu moi à mon époque quand j'étais jeune, les commentaires sur un joueur de foot en généralisant, dire ouais mais joueur de foot, c'est à dire bon tu joues
tout dans les jambes et rien dans la tête.
Ouais, exactement.
Oh non, il y a pas qui c'est vrai.
Et là je vois quand même un garçon qui moi m'étonne mais agréablement depuis qu'il a 17-18 ans, je le vois en avance sur son temps, je le vois en avance dans la réflexion. Alors évidemment, quand mon grand-père disait tu prends et tu choisis une carrière de bavard, tu as plus de chances de dire de temps en temps quelques conneries. Mais même si on a pu voir depuis qu'il parle qu'il a pu aller un petit peu déraper par moment, dans l'ensemble, je prends plaisir dès que je vois qui va parler, je prends plaisir à l'écouter.
Eh oui, je suis d'accord avec toi.
Et 9 fois sur 10, je me dis, tiens, c'est bien ce qu'il a dit, c'est bien ce qu'il a fait. 9 fois sur 10. Alors après, est-ce que moi je suis un bon juge? Ça, j'aurais pas cette prétention. Mais toujours dit, c'est à moi que tu poses la question. À ce moment-là, c'est moi qui te réponds.
Très bien. Allez, on laisse Mbappé de côté. On reste sur cette bonne blague de Julien.
Soit je la mets au fond.
En même temps, Cole, c'est ton meilleur passeur décisif.
Ah, t'inquiète pas, je l'aurais pas pris comme avocat. Lui.
J'imagine.
Ah, bah, trompe-toi, c'est que j'aurais pas été mal.
Ouais, bien sûr. Alors, messieurs,
on passe tout de suite à Sir Alex Ferguson. Donc, il y a un excellent documentaire qui est sorti d'ailleurs sur les plateformes de VOD. Sir Alex Ferguson, le rêve impossible. Documentaire réalisé par l'un des trois fils de Sir Alex Ferguson. Et il est avec nous pour en parler. Jason Ferguson est dans Top of the Foot. Bonsoir, Jason. Alors merci de nous répondre. Donc dans ce doc, il y a évidemment énormément de choses sur la vie de votre père. Et d'ailleurs, est-ce que ce doc, vous ne l'avez pas fait pour qu'à vie il ait un souvenir? Parce que la mémoire, c'est quelque chose de très important dans le doc pour lui, parce que le doc commence sur cet AVC qu'il a fait, et sa hantise à ce moment-là, vous le racontez dans le documentaire, c'est de perdre la mémoire, c'est de perdre tous ses souvenirs en lien avec le foot.
Oh yeah, absolutely the truth. Actually, when he first expressed his fear of losing his memory.
En fait, la première fois qu'il a exprimé sa peur de perdre la mémoire,
he'd actually had a brain hemorrhage.
Il venait d'avoir une hémorragie.
We'd gone from his house by ambulance.
On avait pris une ambulance pour aller de chez lui à l'hôpital.
He had had a scan.
Il avait passé un scan. On attendait les résultats. Et tout à coup, il a mis sa tête dans ses mains, comme on le voit dans le film, et il dit, j'espère que je ne vais pas perdre la mémoire. Et même dès le début, donc avant même d'avoir les résultats du scan, il avait peur.
Quel genre de père était-il? Parce que beaucoup de joueurs ont pu décrire leur relation avec lui, mais pour vous, en tant qu'enfant, quel genre de père il était? Vu ce que nous décrivent les joueurs, on avait l'impression qu'il était autoritaire, même s'il avait une part pour la psychologie importante, mais il était quand même très dur. Il était ce genre de père?
C'est un bon père. Il était très occupé quand on était petit. Quand il construisait sa carrière de manager.
Mais ce n'était
pas très différent de beaucoup de nos amis, parce qu'on a grandi à Aberdeen et beaucoup de gens travaillaient dans l'industrie du pétrole et donc partaient pendant des semaines sur des plateformes, et donc les enfants ne voyaient pas leur père. Mais il était toujours là pour des avis quand on avait besoin de lui. Même s'il était occupé quand on était enfant, mais mes frères et moi, on ne changerait jamais les souvenirs d'enfance qu'on a et la relation qu'on avait avec lui.
Et c'est l'occasion pour nous, Français, de parler de son rapport à Eric Cantona particulier. D'ailleurs, on apprend dans le doc que c'est grâce à Michel Platini que Ferguson recrute Eric Cantona, qui est en rupture avec le foot français à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans le doc, il y a aussi une anecdote que je trouve très intéressante, c'est de voir comment il traite différemment Cantona des autres. C'est Giggs qui le raconte dans un gala de charité. Giggs arrive avec un bouton déboutonné. Ferguson fonce sur lui et tout de suite lui demande de reboutonner son col. Alors que Cantona arrive presque débraillé et Ferguson ne lui dit rien à part quelle classe. C'était son chouchou, c'était son joueur préféré, Eric Cantona?
Je pense pas qu'il avait un joueur préféré.
Oui,
je pense que c'est la manière de gérer qu'il avait. Et c'était pas seulement pour Cantona. En fait, il manageait un groupe, mais aussi des individus, pour obtenir de chacun d'entre eux le maximum. Et donc, il fallait changer son approche en fonction des joueurs, et avec Eric, il fallait lui laisser plus de liberté. Et pour en avoir parlé avec Ryan, ça n'a jamais gêné les joueurs parce qu'ils avaient beaucoup de respect pour Eric et son impact pour le club.
dealing with people on an individual
basis. Donc le principe, c'est vraiment de gérer les personnes comme des individus et pas dans le groupe.
Pour
maximiser leur
potentiel.
Le
témoignage de Cantona est vraiment très fort sur Ferguson, le seul qui a réussi à tirer autant d'Eric Cantona. Alors, il le dit, son rêve absolu, c'est la Ligue des Champions. Il l'a gagné à deux reprises avec Manchester United. Est-ce qu'après le titre de 99, il n'aurait pas pu aller ailleurs? Est-ce qu'il a eu envie d'aller entraîner ailleurs? Est-ce qu'il a été sollicité pour peut-être gagner ailleurs qu'à Manchester United?
I'm sure those opportunities came to him on a regular basis.
Je pense qu'il a eu des opportunités assez régulièrement.
You know, in the process of making this film before we started.
Avant de commencer à tourner le film, j'ai fait des interviews avec mon père pendant 18 mois. Des interviews enregistrées. Et j'avais 70 heures d'enregistrement et on a parlé de beaucoup de choses. Il aurait eu beaucoup d'opportunités de quitter Manchester. Il aurait pu aller dans d'autres clubs européens et il aurait pu multiplier son salaire. Mais je crois qu'il s'est toujours dit qu'il ne pourrait jamais trouver mieux que Manchester United. Il était tombé amoureux de ce club dès le premier jour.
You know, the grass isn't always greener.
Et parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors c'est vrai qu'il a dû avoir des opportunités excitantes, mais je crois qu'il n'a jamais vraiment voulu aller voir ailleurs.
Dernière question avant de vous libérer, Jason. Quel rapport il a avec le foot français? On a parlé de son rapport à Eric Cantona, il a croisé des joueurs français, mais quel rapport il a avec le foot français? Je crois qu'il aime beaucoup la France, culturellement.
Alors, je ne sais pas vraiment, pour être honnête, il faudrait lui demander. C'est sûr que le pays, il adore la France. Attendez, laissez-moi réfléchir avant le Covid. Ça fait 25 ans. En 25 ans, tous les étés, il venait en France. Quand il entraînait, il prenait 4 semaines de vacances et il les passait en France. Et après sa retraite, tous les mois de juin, il était en France. Il adore les gens, il adore la nourriture, il adore le vin.
Ouais,
il adore la France. Mais en tout cas, en matière de football, je ne sais pas du tout ce qu'il en pense.
Merci beaucoup, Jason Ferguson.
Thank you.
Voilà, donc l'un des fils de Sir Alex Ferguson qui est venu donc nous parler de ce documentaire, donc pour l'entraîneur légendaire de Manchester United.
Le fils de Duprat demain qui vient.
Écoutez, bienvenue.
Embrasse Pascal.
On n'est pas sur le même palmarès.
Ça dépend. Ferguson. Alors excuse-moi, à Toulouse, il a fait quoi à Toulouse,
Ferguson? C'est vrai qu'il a rien
Merci,
fait.
Merci, j'ai pas la question.
Captain, si tu dois garder une image de Ferguson, qu'est-ce que tu dirais?
Garçon voyant. D'abord, bouffer des chewing-gums comme un footballeur américain. c'est vrai. Et puis, quelque part, cette faculté à encaisser les événements, on avait l'impression que tout lui passait très largement au-dessus de la tête. Je l'ai vu plusieurs fois sur un banc de touche de très près à Manchester.
Ouais.
Et véritablement, ça n'avait rien, ni d'un excité, ni d'un gars qui subissait. Il regardait ce spectacle, on avait l'impression qu'il analysait la situation toujours assez froidement. Voilà.
Il était un peu rougeau tout le temps, mais oui.
Il était bon jusqu'à croiser coach Courbis.
Non. C'est sûr que c'est un de mes beaux souvenirs quand même.
Contre Manchester, Marseille-Manchester.
Ben oui, bien sûr.
On perd 2-1, on mène 1-0 à un quart d'heure de la fin. Et on se fait égaliser avec Issa Pierissa qui est blessé, qui est à 5 mètres de la ligne de touche et qui, au lieu de rester sur le terrain, dans un souci de bien faire, il sort difficilement à quatre pattes en rampant et donc il frappe le coup franc. Beckham il centre et York marque de la tête dans une zone qui était celle de
Pierissa.
Et derrière ça, il nous marque, il perd 2-1.
Il y a la victoire 1-0 avec Galas, c'est ça,
et 15 jours après, on les bat. Après un très bon match, mais bon, ils avaient une énorme équipe.
Moi, ce que je retiens quand même de ce type, c'est qu'il a réussi à canaliser et à mettre capitaine Eric Cantona et Patrice Evra.
Honnêtement, dans le doc, Alors, sur Evra, il n'y a rien. Non, mais sur Cantona, c'est fabuleux. Non,
mais la façon quand tu vois dont ce que il gère comme Cantona. Personnalité. Mais même pas, regarde, Pat Evra, tu l'as vu hors Ferguson, comment c'est un cassos.
Non, c'est vrai.
Alors
c'est
que c'était un capitaine irréprochable.
Exactement.
Donc, le mec, c'est, il est fascinant.
On laisse Ferguson de côté.
Oui, le hard dryer surtout. C'est le hard dryer.
Le hard dryer sur Beckham. Exactement. Il y a une histoire aussi similaire sur une bouteille lancée par Giggs à la mi-temps d'un match aussi. Enfin bon, tout ça est magnifique. Sur Alex Ferguson, le rêve impossible, donc un super documentaire. Dans un instant, quand va-t-on remarquer un pénalty en équipe de France? C'est le débat entre les lignes, à tout de suite.
C'est 18h21h, Top of the Foot.
Jean-Louis Tour. 19h50, c'est Top of the Foot. Captain Larquet, coach Courbis et Julien Cazard. À 20h, on continue notre édition spéciale Euro débutée hier. Deschamps tient-il sa compo pour débuter la compétition? On reviendra sur les autres matchs d'hier, notamment le 2 partout des Pays-Bas face à l'Écosse. On sera avec Bolo Zenden, l'ancien milieu de terrain des Pays-Bas.
Et de l'OM.
Et de l'OM, bien sûr. L'Allemagne qui ne bat pas le Danemark, on y reviendra également. Et puis on se demandera si l'Italie sera l'un des outsiders crédibles de cet Euro. Mais tout de suite, les pénaltys.
RMC Top of the Foot, entre les lignes.
Avec Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut Jean-Louis, bonsoir à tous.
Salut Jimmy.
Roland, ça va te parler. Hier soir, j'avais misé sur un but de Karim Benzema pour son retour en équipe de France.
Ah, merde. Merde.
Je me suis dit, cote à 2,30, j'ai flairé la bonne affaire, c'est facile, c'est coup sûr. Du coup, quand Griezmann lui a laissé le ballon pour tirer le péno à la 27e minute, je me suis vu beau. Sauf que là.
Karim Benzema pour le pénalty face à Ward.
Oh non,
de l'arrêt.
Oh, super.
L'arrêt de Ward.
Eh oui, il y avait une belle cote aussi qui marquait le premier but.
Absolument, il était à 4-30 pour le premier but. On l'avait joué aussi, ça. Bref, c'est pas grave. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il a pas tapé le poteau derrière, il a pas eu l'énorme occasion de la tête. Bon, bref, ça arrive. Alors qu'il a jamais raté un péno en club, que ce soit à Lyon ou à Madrid, Karim Benzema, il est à 16 sur 16. C'est son troisième pénalty raté consécutivement en bleu. La dernière fois, c'était loin. C'était France-Suisse à la Coupe du Monde 2014 et quelques mois plus tard, France-Suède en match amical. En tout cas, les Bleus sont pas sur une réussite de dingue, pardon, dans l'exercice depuis quelques temps. C'est Didier Deschamps qui le disait hier soir après le match.
Il y a plusieurs joueurs qui sont capables de tirer les pénaltys, même si on reste sur une série qui est plutôt pas bonne.
Oui, les chiffres confirment Didier. Sur les 8 derniers pénaltys obtenus par les champions du monde, 5 ont été manqués. Donc, il n'y en a eu que 3 qui ont été marqués. Lors du dernier rassemblement, l'équipe de France avait obtenu un péno, c'était au Kazakhstan, et c'est Kylian Mbappé qui s'était lancé.
Kylian Mbappé face au gardien Mokhin, 74e minute, arrêt de Mokhin.
Voilà, loupé aussi donc pour Kylian. Heureusement, le troisième membre de la fameuse MGB, c'est sa spécialité, c'est pas moi qui le dis. C'est PG Dream qui le dit.
Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble.
Eh ouais, on est ensemble, Antoine. Dernier péno tiré par Griezmann en bleu, c'était le 5 septembre dernier contre la Suède en Ligue des Nations.
Griezmann, d'affilée, troisième échec après l'Albanie et l'Andorre.
Et oui, même Grisou n'y arrive plus alors qu'il avait marqué ses 7 premiers pénaltys en bleu. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Bah, du coup, on s'interroge sur la hiérarchie au prochain péno. Qui est-ce qui va aller le tirer du coup?
Voilà, j'avais rien décidé avant. On verra. Après, c'est le ressenti entre les joueurs. Il y en a un qui se sent plus. Il y a faute sur lui, pas faute sur lui. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un affichage des choses négatives.
Voilà. Voilà, pas besoin de décider, coach.
J'ai pas besoin de décider. Peut-être qu'il faudra faire
déjà
rentrer.
Déjà, parler foot, ça l'emmerde. Alors là, tu parles.
Peut-être qu'il faudra faire rentrer Olivier Giroud. Lui, il a 4 sur 4 dans l'exercice en bleu, Olivier Giroud.
Voilà la solution.
Bah, peut-être.
Faut qu'il rentre, quoi.
Écoute, ça.
Coach, comment on fait?
Mais chacun a sa vision des choses. Moi, j'avais la mienne. Et tu sais qu'une de mes phrases préférées, j'avais la mienne. Ça veut pas dire que j'avais la bonne, mais j'avais la mienne. C'est-à-dire que déjà, celui qui obtenait le pénalty ne le tire pas. Donc c'était une idée pour moi qui me faisait dire que psychologiquement, c'est pas une bonne chose.
Après, hier, Antoine Griezmann, t'as l'impression qu'il veut faire plaisir à Benzema et qu'il lui laisse.
Oui, mais là, tu considères qu'on lui dit. Mais là, Benzema, il n'y a pas faute sur lui.
C'est lui qui le provoque, quoi.
Ça n'empêche pas, mais je ne dis pas ça pour le pénalty d'hier, avec en plus cette VAR, le gars, il a touché. Quand je vois hier, le gars, il se fait expulser alors qu'on est dans un match de préparation.
On n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est grotesque.
Tu te fais expulser parce que le mec, il t'a tiré dans la main. Bon, mais bref, pourquoi pas, hein.
C'est vrai qu'il
n'y a aucun
sens.
Des conneries, c'est pas la première fois que j'en vois et que j'en déplore. Mais en ce qui concerne, donc, pour moi, les tireurs de pénalty, ben, c'est pas eux qui doivent décider. Je suis désolé. Après, s'il y en a un qui se sent pas, par contre, ben, qui a l'intelligence, si c'est le tireur numéro 1 qui se sent pas,
et parce qu'il est dans un soir où il rate tout et qu'il dit au numéro 2, vas-y, je préfère ouais. Bélas à ce moment-là, oui. je vais même l'applaudir. Mais pour moi, avant le match, un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, on verra le match d'après, parce que ce soit toujours le même qui tire, après arriver à un certain moment, on sait qu'on nous espionne, on sait qu'on voit, après il ne sait plus où tirer, donc je préfère que le match d'après, ce soit le numéro 2 qui passe au numéro 1, et après ce sera le numéro 3. Et en ce qui concerne les tireurs de pénalty, eh bien là où ils peuvent décider, c'est s'ils se sentent pas, mais qu'ils puissent décider eux, je dis non. On parle de discipline et j'entends. Mais les pénalties, ben ils les tirent ben, un peu qui veut. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan offensif? Eh ben on permute. Donc on permute. On va de droite à gauche, de gauche à droite, quand on veut, comment on veut. Mais oui, pourquoi pas? C'est vrai que si on a la chance d'avoir des joueurs capables de faire ça, eh ben tant mieux pour nous. Mais pour ce qui est des pénalties, non, je dis qu'il y a une discipline. À avoir.
Coach, garde-en sous le pied, puisqu'on va revenir là-dessus après 20h. Coach, captain, pardon, ça te choque d'entendre qu'il n'y a pas de. C'est vrai que tu as été coach aussi, pardon, je ne devrais pas me reprendre. Ça te choque d'entendre qu'il n'y a pas de hiérarchie sur les tireurs ? Oui, il est parti, il a déjà fini sa journée. Il est parti dormir. Non, mais c'est infernal.
Moi, ça ne me choque pas.
Qu'il te voit parti ?
Qu'il soit parti, moi, ça ne me choque pas. À un moment donné, déjà, c'est par rapport à. Puis s'il y a la soigneuse aussi qui doit venir le chercher, qui lui fait sa toilette, il est quelle heure là ?
La piqûre.
Il a sa piqûre.
19h56.
Il a son suppôt, là.
Alors, visiblement, il y a des orages qui viennent d'exploser sur.
Ah, il a pas de toit. Merde. Bah, faut lui mettre au moins une tente ou un parapluie.
Ils sont sans toit. Non, mais il y a des orages sur le Pays Basque. Et donc, la ligne a coupé. On n'est pas en grande réussite sur les lignes, là, depuis 24 heures. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà pour les pénalties. Merci, Jimmy.
Merci à toi.
Merci, Julien. Avec coach, plaisir. Tu restes avec et nous.
Autre chose sur le pénalty, vous regarderez dans les images si oui. j'ai tort. Le pénalty que rate Karim. Qui est arrêté avec un beau plongeon.
Oui, il est à
refaire. Le gars, il n'a pas les pieds sur la ligne.
Exactement. Et voilà, on va chercher la VAR pour aller expulser un mec.
Tu dois te faire rembourser ton ticket.
Voilà, je compte sur toi.
C'est vrai que Jimmy, ça lui a pas échappé, ça. Allez, dans un instant, l'édition spéciale Euro continue. Le match des Bleus. Deschamps a-t-il sa compo pour commencer l'Euro? Le retour de Benzema est-il déjà un succès? Et puis, on revient sur les matchs de l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. C'est Top of the Foot jusqu'à 21h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 21h.
Top of the Foot.